Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échanges et de découvertes des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Orti et Esteban, son fils. Alors, ils sont là au nom de l'APESAC. Alors, c'est un acronyme. Je vais vous dire ce que c'est, parce qu'on est au pays des acronymes. L'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Alors, dit comme ça, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire exactement. On va bien sûr détailler tout ça. Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Très bien.
Oui, parfait, très bien, merci.
Voilà, on est content de vous recevoir. Vous êtes déjà passé l'antenne de Dax, et puis moi, voilà, je vous ai découvert à ce moment-là. Je dis, mais ça, c'est un sujet, important et intéressant. Et donc, ça m'a fait plaisir de vous inviter pour qu'on parle de ça. On va passer une petite heure ensemble. Hein, on va parler un peu de l'association que vous représentez aussi, de son combat, hein, parce que la vie est un combat pour certaines personnes. Des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais la vie des autres, c'est intéressant de s'y pencher de temps en temps. On va écouter le Flash Info National et International de la rédaction. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour avec nos invités. Alors, la tradition ici, on aime bien s'intéresser aux gens qui viennent nous voir, qui viennent parler à ce micro. Voilà, est-ce que c'est possible que vous nous fassiez une petite trajectoire, hein, j'appelle ça toujours la trajectoire, une petite échantillon, tranche de vie, un petit résumé, une petite bio, quoi.
Oui, si vous voulez, bon, moi je suis une maman, je suis une maman de 55 ans, j'ai été épileptique dès l'âge de 1 an et j'étais sous traitement. À l'issue de, donc je suis née dans les Landes, mais je suis partie travailler à Paris à l'âge de 20 ans, pendant 20 ans, pour travailler dans le tourisme, puisque je travaillais dans le tourisme. Et donc à Paris, j'ai rencontré mon mari et on a le projet de fonder une famille. Et effectivement, étant sous des paquines, là, s'est posé la question de la grossesse. Voilà, donc, et ensuite, on est revenu dans les Landes. On a eu la chance de pouvoir revenir dans les Landes et de travailler dans les Landes. Et là, on est bien.
Et oui, c'est ce que disent la plupart des gens qui viennent ici. Hein.
Oui, mais bon, moi, j'ai déjà vécu ici, mais c'est vrai que d'avoir vécu dans les deux, on se rend compte de la chance.
J'appelle ça les anguilles ou les saumons, hein, qui naissent dans les ruisseaux, qui vont jusqu'à la mer et un jour ils reviennent à leur lieu de naissance.
Ah oui, effectivement, ouais. Bravo.
Sans vouloir être des obligeants, bien sûr.
Bravo. J'avais pas la ref.
Et oui, ouais, mais c'est parce que on n'a pas le même âge, c'est pour ça. Bon alors Esteban, une petite bio aussi.
Ben moi, je reprends aussi ce qu'a dit maman. Ben je viens de la région parisienne. Je suis né en région parisienne. Ben, je suis né en 2006, j'ai 19 ans maintenant. J'ai fait un CAP que j'ai eu en vente.
Ouais.
Mention très bien d'ailleurs. Et merci pour les félicitations.
Bravo, bravo.
Et non, en fait, là je suis en bac pro vente. Et je vais passer en terminale l'année prochaine, du coup, les examens. Et ben, c'est un peu mon tranche de vie.
Oui, ben, on ne s'attend pas à une bio non plus de 2 heures, c'est normal.
T'es trop jeune
encore, mais t'as encore plein de choses à faire.
Bien sûr.
Bon alors, le sujet qui nous amène n'est pas forcément, bon, sourit, hein, mais pas forcément marrant. Hein, c'est vraiment, on va employer ce terme un peu générique, ce fameux scandale de la dépakine. Voilà, donc le combat de votre association, voilà, qu'est-ce que c'est un peu cette association et son historique, parce qu'elle existe depuis un moment et il y a pas mal d'actions à son actif.
Oui, donc l'APESAC, c'est l'association qu'a créée Marine Martin, donc, qui est une maman de 2 enfants, qui est épileptique et qui, elle, prenait donc de la dépakine pendant ses grossesses et qui, en cherchant sur Internet médicaments dangereux pour la grossesse, a trouvé que la dépakine était le deuxième médicament le plus dangereux. Donc, quand elle a vu ça, elle s'est dit qu'il fallait absolument qu'elle monte une association pour se faire connaître. Donc, elle a monté l'association en 2011. Et aujourd'hui, sont recensées plus de 8700 victimes. Mmh. Alors, la dépakine, c'est un médicament anti-épileptique qui est aussi sous la forme de dépakode et dépamide pour les troubles bipolaires. Donc, c'est donné pour ces deux choses-là. Ce sont des médicaments essentiels pour certaines femmes parce qu'elles ne peuvent pas s'en passer. Oui. Et effectivement, l'action de l'APESAC, c'était de donner l'information à la patiente parce que moi, pendant ma grossesse, effectivement, enfant. Je n'ai pas eu l'information. Dans la notice, c'était marqué « consultez votre médecin oui. », ce que j'ai fait. Oui. Et je n'ai pas eu plus d'informations, puisque mon médecin m'a dit « le seul risque, c'est un risque de malformation du tube neural, et on va prendre de la, vous allez prendre de la vitamine B9 et tout ira bien.
»
Donc, je n'ai eu que cette information-là, et c'est ce qui nous a manqué, effectivement. Et la PESAC est là pour donner l'information, et puis pour faire des actions, puisque l'association a créé un fonds d'indemnisation pour les victimes, l'association œuvre pour informer, pour faire changer les choses, pour les pictogrammes sur les boîtes de médicaments. Enfin, il y a énormément d'actions, effectivement.
Oui, bien sûr, oui.
Qui sont utiles vraiment de santé et de santé publique, en fait.
Oui,
hein.
Oui. Alors au-delà de juste la simple information, il y a aussi quand même un problème, parce qu'on va en parler forcément s'il y a quand même un conflit au pénal, avec un célèbre fabricant de produits pharmaceutiques, Sanofi pour ne pas le nommer, parce qu'il y a quand même, le problème n'est pas juste que le médicament soit, on soit mal renseigné sur les conséquences, c'est aussi qu'il y a quand même une malveillance, une malhonnêteté quelque part de la part de certaines personnes, c'est ça le problème aussi.
Oui, effectivement, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Donc, une procédure pénale contre Sanofi. Il y a des procédures individuelles également au civil. Donc, nous avons une procédure qui, normalement, le 11 septembre, devrait aboutir à un jugement.
Oui.
Parce que le jugement a été prorogé pour surcharge de travail du tribunal. On devait avoir fin juin et ça, on ne l'a pas tout de suite. Il y a des procédures également au tribunal administratif contre l'État. Il y a des procédures donc aussi amiables à l'ONIAM, puisque l'ONIAM, c'est l'Office d'indemnisation des accidents médicaux. Donc là, c'est l'État qui va indemniser les familles. Mais aujourd'hui, se pose un problème, c'est que à l'ONIAM, il est dans les décisions, par exemple, il est demandé à ce que Sanofi prenne 80% du montant d'indemnisation. Aujourd'hui, Sanofi ne paye pas. C'est l'État qui paye à la place de Sanofi. Donc, ce sont les impôts qui payent.
Non, mais ça, c'est embêtant. Alors, c'est double peine, quand même.
C'est quand même double peine.
Vous payez vous-même, en gros, l'indemnisation. C'est incroyable, ça.
C'est ça. On s'auto-indemnise, en fait.
C'est fou, ça.
Donc, effectivement, ça, c'est terrible. L'État, du coup, est obligé de faire des actions civiles contre Sanofi pour récupérer l'argent. Ça va durer 10-15 ans. Sanofi, en fait, fait tout pour retarder le maximum de procédures.
Pour
eux, l'intérêt, c'est de gagner du temps pour ne pas payer et ne pas être condamné. Je pense que dans les procédures là qui vont arriver, enfin, je souhaite que dans la mienne, en tout cas, ils soient condamnés. C'est vraiment notre objectif que Sanofi soit condamné au-delà de l'argent. Voilà, il faut vraiment que Sanofi arrête son mépris, parce que c'est du mépris pour les victimes de dire c'est pas nous, alors ils se défaussent, c'est pas nous, c'est l'État, on a prévenu. Non, c'est pas vrai, vous avez rien fait du tout. Si vous avez fait quelque chose, moi dans la notice en 2006, il y aurait eu des informations. Là, il n'y en avait pas.
Oui, bien sûr, oui. Oui, alors c'est certain que l'État doit avoir aussi sa part de responsabilité, puisque lui, il est censé se porter garant de ce qu'il autorise à être mettre sur le marché. Donc,
oui, bien sûr, mais l'État a reconnu sa responsabilité. Ce qu'il y a, c'est que Sanofi ne reconnaît rien du tout. Sanofi fait tout pour ne pas payer. Donc, et le principal responsable, c'est eux, parce qu'ils savaient. Dès les années 80, il y avait des études qui disaient que ce médicament posait des problèmes chez les enfants en trouble neurodéveloppemental. Pourquoi ces études n'ont jamais été ressorties? Moi, en 2006, lors de ma grossesse, c'était quand même marqué « consultez votre médecin ». Entre 80 et 2006, il s'est quand même écoulé plus de 30 ans. Enfin, c'est pas possible.
Ah ouais.
C'est pas entendable.
Ouais. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire à l'étranger, cette molécule là, que bon, c'est Sanofi peut-être qu'elle a la licence, hein. Est-ce que aussi il y a d'autres pays, comme aux États-Unis, des fois il y a eu des scandales comme ça, il y a eu des films sur ça d'ailleurs.
Oui.
Est-ce qu'aux États-Unis aussi ou dans d'autres pays il y a eu aussi un scandale équivalent?
Ah oui, complètement. Marine Martin a aidé les associations à se monter. Il y en a une en Espagne. Il y a eu en Angleterre également. En Angleterre, ils étaient déjà là avant. Mais oui, mais en France. La chance que nous avons, c'est qu'en France, il y a un fonds d'indemnisation pour les victimes. Ça n'existe dans nulle part ailleurs. Et même en France, ça n'existe pour aucun autre scandale.
Ouais, d'accord.
Donc, la PESAC a réussi à faire ce fonds d'indemnisation qui permet aux victimes de déposer un dossier. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que ça met du temps, il faut constituer un dossier, mais ça permet de déposer un dossier éventuellement sans avocat, on peut y aller par soi-même. C'est une procédure amiable, donc ça va pas être une expertise, il va pas falloir se déplacer, c'est une étude sur dossier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, et c'est pour les victimes, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant.
Ouais, d'accord. Et oui, donc on parlait aussi de Marine Martin, hein, donc c'est ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte.
Hein. Complètement.
Voilà, et donc bon, j'ai bien vu qu'elle avait une certaine couverture médiatique. Elle a écrit un livre, je crois. Elle est allée à la télévision, à la radio. C'est un peu le fer de lance de votre association. C'est elle qui l'a fondée.
C'est complètement. Et si elle arrête, tout s'arrête. Donc effectivement, c'est elle qui est à l'origine de tout. Grâce à elle, les pictogrammes sur les boîtes de médicaments, c'est elle. Ça, c'est quelque chose qui... Enfin, ça paraît une évidence, mais sur une bouteille d'alcool, il y a un pictogramme. Donc pourquoi pas sur une boîte de médicaments? C'est un produit chimique. Donc forcément, il y a énormément de choses qu'elle a fait, effectivement, et qui sont de santé très importantes dans le domaine de la santé.
Très bien. Ben, c'est déjà le moment de faire notre première petite pause musicale et on se retrouve ensuite pour la suite de notre émission. On va se poser la question aussi, mais quelles sont vraiment ces molécules qui sont, je dis c'est parce qu'il y en a plusieurs apparemment, parce qu'apparemment c'est tous les antiepileptiques qui sont mis en cause, malheureusement, parce que c'est quand même un médicament dont on a besoin. Quelles sont toutes ces molécules et puis quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se passe concrètement quand une femme enceinte, c'est les premières victimes, on va dire, est épileptique, et qu'est-ce qui peut se passer en fait si elle prend un de ces médicaments, c'est quoi les risques?
En fait, effectivement, on se rend compte que tous les antiépileptiques sont phototoxiques. Aujourd'hui, il y a d'autres antiépileptiques qui sont tégrétol, par exemple, qui sont interdits aussi à la femme enceinte grâce au travail de la PESAC. Ces médicaments, il faut toujours aller voir son médecin pour avoir un avis médical, pour savoir si le médicament peut être arrêté, peut être diminué, parce que ces médicaments, là, dans le cas de la dépakine, c'est 40% de troubles neurodéveloppementaux.
C'est beaucoup, là.
Quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, on parle d'autisme, on parle de troubles dyspraxie, dyscalculie, on parle de troubles de déficit de l'attention, TDA, on parle de déficience intellectuelle, on parle d'énormément de choses. Et effectivement, 40%, c'est presque un enfant sur deux. Donc,
c'est énorme.
On ne peut pas dire, pas de chance. C'est forcément... Et 30% de malformations. Ça peut être des malformations de cardiaques, beaucoup de malformations cardiaques, malformations des membres. Donc, avec les autres antiépileptiques, on retrouve ces mêmes pathologies, mais qui sont à des effets un peu plus bas que la dépakine, puisque aujourd'hui, les études montrent que la dépakine, vraiment, c'est énorme. Les autres antiépileptiques, donc, effectivement, il faut une réévaluation du traitement. Quelque chose qui est indispensable. Donc, il faut aller voir son médecin. Quand on a un projet de grossesse, il faut absolument aller voir son médecin pour en discuter avec lui, pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Si c'est possible, effectivement, il faut diminuer le traitement ou l'arrêter. Si ce n'est pas possible, il faut trouver des alternatives thérapeutiques les moins phototoxiques.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu... on est un peu coincé quand même quand on est une femme épileptique, parce qu'en fait, donc, il n'y a pas d'anti-épileptique connu qui n'aurait pas de mauvais effets, en fait.
C'est une substance chimique, donc forcément, elle a des effets. Quand on voit que le doliprane, pendant la grossesse, peut être aussi dangereux, donc on se dit que des traitements qui vont sur le cerveau sont forcément dangereux.
Oui, c'est ça. Et du coup, la réévaluation du traitement, alors ça pourrait être quoi? Par exemple, une prise moins fréquente, une baisse de dose, mais est-ce que ça a un impact vraiment sensible sur les risques? Parce qu'après, on joue un petit peu toujours la roulette russe.
Oui, c'est sûr qu'une femme épileptique, elle peut mourir d'une crise d'épilepsie, donc c'est quelque chose de très grave. C'est pour ça qu'il faut un avis médical, mais diminution du traitement ou arrêt du traitement... C'est tout à fait possible, mais bien sûr, une grossesse, ça se prépare dans ces cas-là. Donc effectivement, il faut en parler à son médecin dès qu'il y a le projet pour voir ce qui peut être fait. Mais c'est certain que quand on n'a pas de traitement pendant la grossesse, on voit bien que les enfants sont en bonne santé et qu'il n'y a pas de pathologie, parce que toutes les tous les troubles neurodéveloppementaux, on ne les voit pas tout de suite.
Parce
que
sûr,
c'est des choses qui arrivent. Alors nous, Esteban, effectivement, on l'a vu très rapidement parce qu'à l'âge de 1 an, il prenait pas les objets. Il pouvait rester posé à un endroit. Mm-hmm. Il se passait rien, en fait.
Oui.
Il était complètement hypotonique. Mm-hmm. Donc, on s'en est rendu compte, on est allé voir le neuropédiatre qui nous a dit non, c'est un garçon, les garçons ça se développe plus lentement que les filles.
Ah ça, et ça dure longtemps ça en général.
Voilà, donc patienter, très bien, on a patienté, puis on est allé le revoir pour lui dire non c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas bien. Mm-hmm. Et du coup là, il nous envoie vers un neuropédiatre qui lui a diagnostiqué un trouble de développement global. Esteban il avait 2 ans, voilà, il a commencé à parler, à marcher, il avait 2 ans et demi, mm-hmm. Il a commencé à balbutier, il avait 4 ans,
oui.
Donc on avait vraiment un retard de tous les troubles du langage, troubles psychomoteurs énormes. Et grâce à la prise en charge, parce que ça aussi, si on se rend compte que l'enfant, il a des difficultés, il faut tout de suite aller consulter pour une prise en charge.
Oui.
La prise en charge qu'a eu Esteban à l'âge de 2 ans, il a été pris en charge de 2 ans pratiquement jusqu'à ses 14 ou 15 ans, ça lui a permis d'avancer. Ça lui a permis de gagner des compétences qu'il n'aurait pas eues s'il n'y avait pas de prise en charge.
Oui, ça, c'est
donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les parents. C'est difficile à admettre, hein, parce que moi, je me rappelle quand il était petit et qu'on nous annonce tout ça, et ben on se prend vraiment un coup sur la tête et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. C'est difficile, mais après la prise en charge, on voit qu'il y a des progrès. Et là, on se dit, même si ça va être difficile, mais on y arrivera.
Oui, c'est pour ça que c'est important l'information, y compris pour le corps médical, que tout le monde soit vraiment conscient de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire.
C'est vital.
Alors c'est intéressant d'avoir Esteban avec nous parce que après tout c'est lui la première victime de tout ça, hein.
Oui.
Donc sa vie n'aurait pas été la même chose qu'elle sera parce que voilà, il a malchance. Et comment ça se passe pour toi dans ta tête? Est-ce qu'il y a une forme de d'amertume, de colère? Comment est-ce que tu le vis, que tu le ressens cette chose là?
Ben oui, comme vous dites, forcément, on a une forme de colère, on se sent un peu rabaissé parce que, en fait, justement, on veut essayer d'être comme les autres, mais on n'y arrive pas, on essaye de faire des efforts et justement, ça paye pas. Et le fait de, voilà, d'être différent, enfin, d'être différent vu par l'autisme, mais.
Oui.
Voilà. Ben, je trouve que, voilà, quoi, ça, vraiment, ça me crée une révolte intérieure.
Oui.
Comme j'avais dit à France 2, très forte.
Oui.
Mais, en fait, voilà, quoi, je suis. Comment dire, enfin, il y a tellement, en fait, j'ai tellement de colère en moi que j'ai du mal à exprimer ici au micro, que je pourrais bien l'exprimer à mes copains.
Oui, voilà,
justement.
Bien sûr. Oui. Et alors, justement, voilà, c'est ça, au niveau communication avec les autres, les amis, les connaissances, et ça fait partie des sujets qu'à un moment donné, tu finis par aborder.
En fait, un jour, j'ai abordé ça avec mon ami proche, d'ailleurs, que je salue, que je lui ai dit que j'étais autiste, et il m'a dit non, parce que ça se voyait pas. Mais je lui ai dit que si tu, par exemple, si t'étais mon frère, tu le voyais forcément. Mais justement, c'est un frère de sang, mais bon.
Oui, oui.
Voilà.
C'est important.
Et, c'est vrai que plein de gens me disent que ça se voit pas que je suis autiste, mais que j'ai envie de leur dire ça se voit quand même, parce que c'est déjà au niveau de la communication, au niveau du travail, au niveau de tout en fait, au niveau de la vie en général.
Bien sûr, ouais.
Vie professionnelle, vie au quotidien. Et voilà.
Oui, pour les études, c'est un petit peu handicapant, c'est un petit peu rend les choses, certaines choses un petit peu difficiles ou pas.
Ben en fait, comment dire.
T'as une AVS.
Oui, j'ai une AVS. Effectivement, j'aurais aimé être comme les autres, en fait, être me sentir au même niveau. Et justement, pas avoir d'AVS, pas avoir des rendez-vous, parce que je sens que dans la vie que j'aurais aimé avoir, j'ai manqué beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
Et que je voudrais, du coup, c'est pour ça que j'essaye de rattraper au maximum, de Mais des fois, c'est vraiment très dur parce qu'on on veut se sentir au même niveau que les autres.
Ouais, je comprends bien, ouais.
Et montrer que l'autisme, voilà quoi, que on, même si on, a un, si on est autiste, qu'on se sent comme les autres.
Mmh. Bon, après, pour moi personnellement, j'ai eu plein de gens à ce micro qui ne s'en sont pas moins bien, mieux sortis que toi. Hein, donc franchement, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de différence pour moi entre un invité lambda et toi, il n'y a aucun souci. Hein.
Ben, je vais vous dire, moi par exemple, quand je voyais vraiment... Par exemple, au rassemblement de la PESAC, quand je voyais les gens au fauteuil roulant, ça vraiment, je versais carrément une petite larme parce que je me suis dit, mais Sanofi, c'est des monstres en fait. C'est pas des vraies personnes. Mmh. C'est des personnes ayant aucun sentiment, aucune pitié en fait.
Très, oui. C'est vrai.
Bah, on l'a entendu, le mot pitié, c'est bon.
Oui, on l'a entendu. Je peux monter le volume au podcast si tu veux, si t'as peur qu'on n'entende pas.
Non, c'est bon.
Bon, mais c'est le moment de faire notre deuxième pause. On va écouter la petite pause musicale, un petit peu de pub et puis le flash info local. Et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission. Puis merci pour ce témoignage, en tout cas, Esteban. À tout de suite. On va parler du méchant encore, enfin un petit peu, on va parler de Sanofi. Ouais, parce que qu'est-ce qu'on leur reproche? Donc il y a des procédures et tout. Ce qu'on leur reproche, c'est le mensonge, ne serait-ce que par au moins omission, mais en tout cas de ne pas avoir suffisamment informé les usagers, ça c'est clair.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on leur reproche, effectivement, c'est de ne pas avoir informé à des fins commerciales. Hein. Ils ont voulu se faire de l'argent, tout simplement. Et donc, ils n'ont pas dit ce qu'ils savaient sur ces médicaments. Donc, ils ont caché l'information délibérément. Et c'est ça qu'on leur reproche. Ce qu'ils leur reprochent, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Mmh. Et effectivement, donc il y a des procédures qui sont en cours. Donc, une procédure pénale qui est en cours et qui nous espérons aboutira.
C'est collectif et porté par l'association.
Alors la procédure pénale, elle est portée par aussi par les. Nous, on est dans la procédure pénale, c'est-à-dire qu'on a eu déjà une expertise. Mmh. On est allé faire une expertise au pénal du côté de Rouen c'est porté par les personnes. C'est aussi individuel.
D'accord.
La procédure collective, c'est l'action de groupe. Mmh. Et la PESAC a été la première association à pouvoir, il y a quelques années, le gouvernement avait voté une loi qui permettait aux associations de faire des actions de groupe. Mmh. Et la PESAC a été la première, et c'est une action de groupe qui, pour l'instant, est en cours. Donc, il faut attendre. Effectivement, cette action de groupe débouche sur une responsabilité établie de Sanofi. Mmh. Les autres familles pourront s'y joindre. Mais pour l'instant, elle est portée uniquement par l'association.
D'accord.
Donc la procédure pénale, elle est portée par les familles qui ont fait une dénonciation au tribunal pénal. Mm-hmm. Il y a donc l'ONIAM, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui là est une indemnisation amiable. Et il y a aussi la procédure civile. Donc la procédure civile, pour nous, elle a démarré en 2016, puisque Esteban avait 10 ans. Mm-hmm. En 2016, on a déposé donc un dossier au tribunal civil pour effectivement faire reconnaître la responsabilité de Sanofi, parce que ça, c'est notre but majeur, de faire reconnaître la responsabilité de Sanofi. Mmh. On a eu très vite une expertise en 2017, on est monté à Paris, où ils ont examiné Esteban. On est resté toute une journée avec des médecins, avec Sanofi, avec les avocats. Et ensuite, on attend. Et là, c'est cette procédure qui devrait aboutir à un jugement là le 11 septembre. Mmh. Donc ça fait presque 9 ans qu'on a lancé la procédure.
C'est le parcours du combattant.
C'est super long, ça coûte un peu d'argent, donc effectivement c'est long, mais là le 11 septembre, si Sanofi est condamné, on sait qu'on en prend encore pour 5 ans, puisqu'après il y aura de l'appel et de la cassation, puisque Sanofi ne va pas se laisser faire. Faut pas rêver.
Non, ils payent des millions des avocats, etc.
Voilà, ils ne vont pas nous donner des sous comme ça, en première intention. Donc on sait qu'on est parti pour quelque chose qui va durer 15 ans.
Mais on lâche rien.
Il n'est pas question de lâcher, parce qu'aujourd'hui on veut que Sanofi soit reconnu responsable. Et si ces condamnations pouvaient permettre aussi à Rentrer dans les procédures pour faire de la jurisprudence,
voilà, c'est ça.
C'est quelque chose qui est important, parce que Marine, par exemple, elle a réussi à faire condamner Sanofi l'année dernière en septembre. Mm-hmm. Donc elle est déjà dans le parcours un petit peu plus avancé, mais c'est quelque chose qui va participer après aux autres familles pour une reconnaissance plus globale. Donc mm-hmm. on multiplie les procédures parce que il faut les faire lâcher à un moment donné. Mm-hmm. C'est pas possible, ce mépris, c'est mm-hmm. inadmissible qu'ils ne reconnaissent pas leur responsabilité. Ça, ouais, pour nous, oui. en tant que victimes, c'est quelque chose dans notre chair, on peut partir qu'en guerre.
Ben oui,
on peut partir qu'en guerre parce que, parce que déjà ça nous touche mm-hmm. et on est forcément en colère contre eux. Ça ne peut pas durer leur leitmotiv qui dit non, c'est pas nous, c'est les autres. Ça, c'est plus possible.
Ouais,
on
ne
peut
ça,
plus
ouais.
l'entendre.
Oui, oui, oui.
Et les familles, vis-à-vis des familles, mais quel mépris.
Mm-hmm.
Cette position est inadmissible. Mm-hmm. Il faut, autant dans le procès du médiator, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps,
voilà,
Servier a reconnu à un moment donné sa responsabilité.
C'est ça, oui. Ouais.
Mais aussi, alors je pense aussi qu'il y a une chose, il n'y a aucune volonté politique au jour d'aujourd'hui mm-hmm. pour que Sanofi reconnaisse sa responsabilité.
Ouais.
Il y a des accointances entre M. Macron mm-hmm. et Serge Weinberg, qui est chez Sanofi.
Mm-hmm.
Donc on sait que de ce côté-là, s'il y avait eu une volonté politique, parce qu'aujourd'hui,
oui.
l'État paye à la place de Sanofi. S'il y a une volonté politique, l'État dit stop, Sanofi, vous payez, nous on
oui.
arrête de payer.
Oui.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et s'il y avait ça, ça aiderait les victimes
bien
et
sûr,
ça aiderait l'État.
Mmh.
Aujourd'hui, on entend que l'État cherche des millions parce
oui.
qu'on
oui.
a besoin de millions.
Eh oui.
Mais
c'est
aujourd'hui, Sanofi, l'État a payé 65 millions pour Sanofi dans l'ONIAM.
Alors c'est considéré comme une avance, ça, qui sera remboursé à posteriori.
Ça sera pas remboursé.
Pas
ça sera remboursé. L'État est obligé de faire des procédures contre Sanofi,
ouais.
des procédures civiles pour récupérer l'argent.
Ouais.
Mais ça va durer 15 ans. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce
ouais.
que ça va pas aboutir? Aujourd'hui, c'est de l'argent qu'a donné l'État.
Ouais.
Et si l'État voulait, eh ben il pourrait dire à Sanofi. Rendez l'argent et nous on va renflouer les caisses.
Ben oui.
C'est une solution. C'est moi ça. Je leur propose cette solution.
Ah, moi, je préfère ça qu'un jour férié en moyen. Alors là, je suis tout à fait pour ça. Alors là, y a
moi
pas
aussi.
De soucis, hein.
Nous on a des solutions.
Oui, oui.
Effectivement.
On
a des idées dans les Landes. Alors, on a des idées, on a des solutions.
Alors attention, c'est la réserve électorale à partir du 1er septembre. On n'aura plus le droit de parler de ça sauf si c'est chronométré. Mais là, on peut y aller.
Ah.
On peut y aller. Enfin, vous n'avez pas l'intention de vous présenter.
Pas du tout.
Non, vous auriez pu. Hein.
Non, pas du tout.
Alors,
je n'ai pas cette.
En termes de timeline, ça se situe comment cette histoire? Parce que cette molécule, bon, je ne sais pas en quelle année, dans les années 80, elle a dû être...
Elle a été commercialisée ouais. par Sanofi en 1967.
67.
Donc
oh
ça
là.
Fait plus de 50 ans qu'il empoisonne les femmes et qu'il empoisonne les riverains. Parce que le valproate est fabriqué à Mourenx.
Mm.
C'est pas très loin
ah, oui,
chez
mais,
nous.
Ah oui, mais, oui, je connais bien l'odeur qu'on ressent.
Voilà.
J'ai déjà visité l'usine où c'est fabriqué. J'ai déjà vu la poudre sortir des tuyaux, je peux le dire.
D'accord.
Il y a très longtemps. Voilà,
ouais,
c'est vrai.
Mais ça continue à être fabriqué de la même façon.
Ouais.
Et donc, en fait, il y a eu aussi, il y a quelques années,
ouais,
des
d'accord.
questions environnementales parce
oui.
qu'ils l'ont retrouvé dans les rivières.
Mais ça sent, hein, ça, une sorte d'odeur de chou un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà senti en passant à côté de l'usine.
Alors effectivement, enfin, d'un côté de l'usine, on sent beaucoup de choses parce
oui,
que
oui, bah, oui.
Y a, ce bassin, malheureusement,
oui, oui.
il a énormément, mais avec des riverains qui ont aussi des difficultés, avec des enfants qui ont des difficultés également, alors que leurs parents n'en prennent pas, mais par contre,
oui,
ils
oui.
travaillent. Donc franchement, c'est vraiment, oui, c'est vraiment un médicament
oui.
indispensable, mais toxique,
oui.
plus, en fait.
D'accord, oui. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on a su, ou en tout cas, dès le départ, est-ce qu'ils savaient déjà, ou est-ce que les études ont été faites pas suffisamment, ou alors ça a été découvert a posteriori qu'il y avait ce problème-là, je ne sais pas.
Dès les années 80, les études
ouais.
sont sorties.
D'accord.
Donc dès les années 80, pour moi, ils savaient.
Voilà, oui.
Pour ça, je dis 30 ans après,
ouais.
C'est toujours pas connu, c'est toujours pas noté dans les notices de médicaments. C'est quand même l'APESA qui, en 2015, a fait noter ça dans les notices de médicaments.
Ouais,
c'est
fou, ça, ouais.
C'est pas normal.
Ouais,
je veux dire, à un moment donné, c'est incroyable.
Ouais, ouais, bah oui. Alors, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a quand même des conséquences qu'on n'imagine pas forcément. C'est que même des hommes peuvent transmettre un problème en ayant pris des antiépileptiques à leur descendance, avec une probabilité bien sûr moins grande qu'une femme enceinte qui les prendrait, mais c'est transgénérationnel en fait. Donc c'est un problème qui s'étale dans le temps et c'est important comme problème.
Complètement. Alors il y a le problème effectivement des hommes qui prennent du valproate pendant la conception, mmh. et donc le valproate passant dans le sperme, effectivement, mmh. eh ben l'enfant peut être touché. Donc mmh. ça, c'est déjà une chose. Et après, il y a le problème transgénérationnel. Aujourd'hui, mmh. la dépakine, elle va modifier l'expression des gènes. Donc, elle va agir sur l'enveloppe des gènes mmh. et elle va impacter les générations futures. Mmh. Aujourd'hui, moi, j'ai pris de la dépakine. Esteban, s'il veut avoir un enfant, se pose la question de savoir est-ce que son enfant va pas avoir les mêmes problèmes
oui.
que lui.
Oui, oui.
Alors, aujourd'hui, il y a des études. Il y a une étude qui avait été faite puisque nous, on a recensé des. On est la seule association à recenser les familles. Hein. Donc, on a recensé des familles qui sont touchées par cette deuxième génération. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est vraiment un problème effectivement qui va durer. Sur des dizaines d'années parce mmh. que la deuxième génération est effectivement impactée mmh. donc c'est pas rien, c'est pas un petit scandale effectivement
oui, oui, oui.
c'est pas rien, c'est quelque chose qui est une bombe à retardement mmh. en fait hein.
Oui, alors surtout si jamais il s'avère qu'effectivement il y a un impact sur l'environnement dans le sens où les gens qui sont autour de la zone de production qui se retrouvent avec des effets, ce qui voudrait dire que la molécule, à un moment donné ou à un autre, elle se retrouve dans l'environnement
oui.
et que les gens même qui ne prennent pas le médicament le prennent sans le savoir avec les conséquences qui vont avec. Et ça, c'est inacceptable, bien entendu.
Bien entendu, on a été contacté par une maman à qui on a demandé de faire une prise de sang et elle avait de la dépakine dans le sang alors qu'elle ne consomme pas.
Et voilà.
Juste parce qu'elle l'a,
oui.
parce qu'elle vivait dans le bassin.
Mmh.
Donc c'est quelque chose qui est énorme, c'est pas simplement...
Oui. C'est pour ça aussi qu'ils font le forcing pour que les choses... n'avance pas trop vite parce que au-delà du simple impact financier devoir rembourser de l'argent ils en ont mais c'est au niveau de la réputation et etc de reconnaître un problème aussi grave c'est un truc qui doit leur faire beaucoup peur en fait.
Je sais pas s'ils ont peur, je pense que peur, je sais pas, je pense qu'ils nous méprisent tellement que je sais pas s'ils ont peur, mais effectivement toutes ces affaires qui sortent c'est pas anodin et ils doivent prendre conscience, effectivement, qu'ils sont en train d'empoisonner les gens.
Oui,
c'est de l'empoisonnement.
Oui,
c'est
grave. Oui.
En fait, le truc, c'est qu'ils se croient, en fait, intouchables.
Mm-hmm.
Tout à fait, ils se croient intouchables.
Oui.
Et ils pensent qu'en fait, ce sont eux le centre du monde. Parce que quand on entendait, quand moi j'entendais, que Macron dise... Oula. Que Macron dit Sanofi est le fleuron de l'industrie française.
Mmh.
Alors là, on restait bouche bée devant la télé, bien sûr, parce qu'en fait, l'État, ils prenaient pas en considération vraiment.
Non,
ils nous prennent pas en considération.
Ils nous prennent pas en considération.
Tu as raison. Mais effectivement, nous, ça nous fait bondir quand on entend ça. Malgré tout, c'est effectivement un laboratoire français.
Oui.
Mais en France, à quel prix?
Moi,
je suis pas contre les médicaments. Mais à un moment donné, il faut quand même donner l'information aux patients. C'est le minimum qu'on attend.
Oui, tout à fait. Ben, c'est le moment de faire notre dernière pause, les amis. Hein. Ça va vite, hein, parce que c'est un sujet, c'est un sujet assez...
Ça va trop vite.
Mais voilà, c'est ça. Puis en plus, on a des invités qui ont la tchatche, et ça, c'est ça qui est bien. On se retrouve tout de suite après cette pause-là, tout de suite. Voilà, nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors, j'avais une question pour Esteban. Je vais le faire rigoler, c'est... Esteban, est-ce que tu as un lance-pierre?
Je n'ai pas de lance-pierre, mais bon... si on peut faire des attaques verbales, pourquoi pas.
Voilà, évidemment, c'est une référence à David contre Goliath, hein, parce que c'est vraiment...
Bien sûr,
C'est l'image qu'on se fait, effectivement, d'une association d'usagers contre une grosse, grosse entreprise pharmaceutique comme ça. Alors, vous avez parlé d'expertise, etc. Vous avez rencontré donc des gens de chez Sanofi.
Oui, l'avocat.
Oui. Et du coup, toi, t'étais présent, Esteban, à ce moment-là?
Il était présent, petit,
mais je m'en souviens plus du tout.
Je m'en souviens pas.
Ouais, d'accord. Ouais.
Mais oui, il était présent. C'était après lui quand on parlait avec tous les experts, il n'était pas là. Il était juste là pour le moment où les experts de santé l'ont examiné.
D'accord,
en fait,
ouais.
Il a fallu se mettre presque nu, etc. Mais ça, tu t'en rappelles pas?
Ben non, mais moi. Ben en fait, moi je me dis que faire une journée pour faire un tas d'examens alors qu'il y a tellement de preuves, preuves pour les inculper, je trouve que c'est un peu
exagéré. Oui, mais c'est
exagéré.
La procédure, Esteban.
Oui,
mais
c'est ça. Il y a des règles à suivre.
Le problème, c'est qu'il y a toujours, voilà, le problème que le problème des procédures, qu'elles soient longues,
oui.
Elles sont trop longues, je trouve.
Ben oui.
Et le problème, il y a tellement de papiers, justement, tellement, il faut faire tellement de choses, de papiers, oui. De comment dire, d'examens, d'expertise,
oui,
tout à fait, que
oui.
C'est épuisant. Mais
c'est
bon.
Sûr.
Comme on dit, on lâche rien.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on parlait de David contre Goliath. Hein, parce que voilà, une grosse entreprise comme ça, elle a des moyens financiers, juridiques, etc. Et c'est un peu un bras de fer sur la durée, hein, en disant, bon, ben, nous, on va durer 15 ans, 20 ans, hein, pas de souci, on a du répondant derrière, en espérant que peut-être les gens en face, ben, ils s'épuisent, quoi.
C'est ça, ils veulent qu'on s'épuise, ils multiplient les procédures pour faire retarder tout ça. Nous, effectivement, il n'est pas question de s'épuiser pour le moment, on est extrêmement déterminés à aller jusqu'au bout. Donc on ne va pas les lâcher et voilà, en espérant que tout ça aboutisse favorablement.
Vous savez, c'est comme le parcours de Ninja Warrior.
Ouais.
Eh ben, nous, on est les obstacles et Sanofi, eh ben, c'est la personne qui doit éviter les obstacles.
Ouais.
Je vois souvent qu'il y a des gens qui tombent à l'eau, on va espérer que Sanofi tombe à l'eau, mais bon, on va essayer,
ouais.
Mais pourquoi pas.
Espérons. Le rôle de l'association, elle n'a pas que de l'aspect juridique, etc. Aussi, c'est l'avancée de la législation, les pictogrammes, l'information, c'est-à-dire que les médicaments, on fait en sorte que les médicaments qui sont dangereux soient marqués correctement et que les gens soient vraiment informés sur les dangers qu'ils encourent quand ils prennent ces molécules-là.
Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est vitale. Donc, effectivement, sans l'information, on ne sait pas et il faut que ça continue. Alors, malheureusement, la NSM veut changer les pictogrammes parce que, soi-disant, ce n'est pas compris. Enfin, une femme enceinte barrée rouge, je ne sais pas ce qu'on peut dire quand ce n'est pas compris.
C'est
pour moi,
mal,
ça veut dire interdit. Mais
oui.
Là, effectivement, pour eux, ce n'est pas tout à fait compris. Je pense qu'il doit y avoir un lobby derrière qui pousse pour que ça soit fait différemment.
Cette bouteille d'alcool, peut-être déjà, non ? Il n'y a pas un pictogramme ?
Si, absolument,
même, hein.
Oui. Donc, c'est tout à fait le même partout. C'est tout à fait lisible et compréhensible.
Oui.
Mais je pense que peut-être que les laboratoires pharmaceutiques vendent moins de boîtes de médicaments avec ça. Et donc, forcément,
oui.
Ça doit poser un problème de ce côté-là.
C'est comme le système de code couleur pour la nourriture, hein, de vert à rouge. Ils n'aiment pas trop les industriels qu'on mette du rouge sur leurs produits.
Oui, mais d'ailleurs, le Nutri-Score, il y a eu effectivement,
hein,
y a des industriels il n'est pas obligatoire.
Oui, c'est
donc
fou, ça,
c'est quand même dingue.
Oui.
Alors que bon, les produits, c'est important ce qu'on mange.
Oui, voilà.
De toute façon, il y a des problèmes partout maintenant.
Oui. Ben oui, on a écouté aux infos tout à l'heure, on a parlé de cette fameuse loi qui est partiellement abrogée, encore avec une molécule dont on sait qu'elle est mauvaise et qu'on veut quand même réintroduire. Et alors que vous vous battez depuis des années. Enfin, c'est fou quand même, on a l'impression, mais qu'il n'y a aucune leçon qui est retenue, en fait, dans
c'est
tout ça.
C'est ça, parce qu'avant nous, il y avait des scandales. Le Distilben, c'était aussi un scandale avant la dépakine.
Mm-hmm.
Et pourtant, ça a aussi, c'est un effet transgénérationnel aussi. Mm-hmm. Et ça n'a servi, on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que se reproduisent les mêmes choses, le Mediator.
Voilà.
C'est dingue quand même qu'on en arrive à des scandales qui se reproduisent comme si on ne gardait pas, on ne prenait pas l'expérience qu'on a pour en faire quelque chose.
Mmh. Mais oui.
Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de Sanofi. Sanofi, il crée des médicaments sans prendre conscience des conséquences du médicament et de la gravité.
Normalement, ils sont censés le faire.
C'est pour de l'argent.
Oui, de toute façon, on le connaît bien.
On est dans un système.
Sanofi aime que l'argent.
Dans un système, effectivement, de l'argent prévaut. Et voilà, c'est.
Et oui.
C'est un peu compliqué.
Mais nous, Souvenir FM, on n'aime pas l'argent, mais on aime les gens. Voilà. Voilà.
Et, puis, ouais. Et on aime les tubes.
Oui, exactement. c'est la fin de notre émission. Mais merci vraiment d'être venu nous parler. Bon, c'était vraiment sympa de t'avoir, Esteban, aussi, hein, parce que voilà, t'es la première personne, t'es là, aux premières loges, hein, de conséquences de ce qui s'est passé.
Je suis un témoin en charge.
Voilà, ouais, t'es un témoin bien vivant qui peut se défendre et dire ce qu'il ressent, et voilà, ça c'est important. C'est pour ça qu'on tend notre micro aux invités. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.